Revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginin et je serai aux commandes de cette émission numéro 1 sur les ondes de Choc FM grâce à vous, chers auditeurs. Bienvenue et merci d'être toujours ici à l'écoute. Alors, nous allons discuter cette semaine dans cette édition du 25 février 2010. Nous allons parler d'économie, d'actualité mondiale, évidemment. Et on va essayer de faire le tour d'un paquet de pays du Moyen-Orient, dont l'Iran, le Pakistan, l'Irak, l'Afghanistan et Israël. Alors, beaucoup de matière à couvrir, évidemment. On va essayer de faire ce qu'on peut dans le temps qu'on a. Et voilà, quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, il y a énormément de trucs, évidemment, à couvrir. Alors, on va y aller avec l'actualité mondiale pour commencer. Vous savez, la semaine passée, je vous ai parlé de plusieurs États aux États-Unis qui collectaient de l'ADN, donc à la naissance, quand les enfants naissent. Alors, vous avez plusieurs États aux États-Unis qui collectent de l'ADN et puis gardent cette information et même la partagent avec d'autres organisations. Alors, cette semaine, il y a des nouvelles qui poursuivent dans cette lignée et on apprend que le Texas a ordonné de détruire 5 millions d'échantillons de sang qui ont été pris de façon illégale de bébés sans le consentement des parents. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle qui est sortie. Et puis, un peu dans la même veine, on a appris d'ailleurs que le Texas a donné plusieurs de ses échantillons d'ADN et de sang à des banques de données pour des informations particulières. Alors, certaines de ces organisations-là qui ont reçu ces échantillons de sang sont les forces armées militaires américaines. Alors, vous savez, ça, c'est assez troublant. Des laboratoires qui reçoivent ces échantillons de sang, ça s'est passé au moins entre les années 2003 et 2007. Ça a été révélé par Science Mag aux États-Unis. Alors, des nouvelles à aller consulter. Ensuite, nous avons les plantes qui sont activement intelligentes. On a appris ça par un article via du New York Times et qui a été reprise par Natural News. Qu'est-ce que ça veut dire pour les végétariens? C'est un peu le titre de l'article qui est paru dans le New York Times. On apprend que, finalement, plusieurs végétariens croient qu'en ne mangeant pas d'animaux, ils préservent la vie. Alors, vous savez, la plupart des gens croient que les plantes sont évidemment vivantes, mais on ne les voit pas comme ayant le même niveau d'intelligence que les animaux. Et puis, la science continue à découvrir la nature complexe, en fait, des plantes et puis de toute la vie qui nous entoure. Et on a découvert, à travers différentes recherches, qu'effectivement, les plantes ont une forme d'intelligence. Et puis, bon, il fait en sorte qu'il y a une sorte de conscience, quoi, une sorte de conscience et d'intelligence qui font que les plantes sont capables de communiquer et puis même de se défendre avec des signaux biochimiques. Et en fait, je vous invite à lire le reste de la nouvelle, là, c'est quand même très intéressant comme truc. On a appris aussi que, bon, les psychiatres voudraient appeler la colère une maladie mentale. Alors, vous avez ce large livre des maladies et puis des désordres psychiatriques, le DSM. Et vous savez, le DSM, c'est, si vous voulez, la Bible des psychologues et des psychiatres. Et puis, il se trouve que ce truc, ce gros livre est mis à jour de façon, je dirais, passablement régulière, dans le sens que la première édition a été mise en ligne, a été publiée, je devrais dire, en 1952. Et à chaque édition, on trouve que ce livre augmente de proportion, des fois peut-être un peu de façon inquiétante. Et on a maintenant la quatrième version qui est 7 fois plus large que la version originale. Et puis la semaine passée, on a appris que la prochaine version va être publiée en 2013 et puis elle a déjà été mise sur le web pour un peu pour avertir les gens. Et puis vous savez, ça commence déjà à soulever des contentieux, certaines controverses. Pourquoi? Parce que bon, évidemment qu'on donne tout le temps l'expansion ce livre-là en incluant de plus en plus de conditions normales, je dirais, de comportements qui sont complètement humains et puis qui sont normales, là, je veux dire, qui sont pas des maladies ou des désordres en tant que tels. En tout cas, assez pour être inclus dans ce livre-là. Et on sait que c'est un certain subterfuge à un moment donné aussi pour faire en sorte qu'à peu près tous les toutes les humeurs et puis les comportements humains soient catégorisés comme étant des désordres et des maladies qui sont traitables ensuite par évidemment des médicaments de Big Pharma. Alors, vous avez certains aspects de ça qui sont assez troublants, dans le sens que maintenant, la colère va être, selon le livre, prescrit comme étant une maladie mentale. Alors, vous allez vous fâcher contre le gouvernement qui dépense votre argent et puis qui ruine le pays. Eh bien, vous êtes un malade mental. Alors, c'est assez spécial. Vous avez, toutes sortes de trucs comme ça, là, qui, évidemment, se base sur presque pas d'évidence, évidemment, sur une science qui est complètement, je dirais, chambranlante ou tout simplement non existante. Et vous savez, il y a plusieurs critiques, évidemment, qui pointent le fait que 70% des enfants dans le passé qui ont été classés comme étant à haut risque de développer des psychoses n'en avaient pas. Et le problème, c'est que vous savez qu'on essaye, évidemment, l'idée derrière tout ça, des fois, en tout cas, c'est d'essayer de déterminer, de trouver de façon assez tôt chez l'enfant des certains troubles qu'on pourrait ensuite régler avant qu'ils se développent de façon trop grave. Donc, il y a peut-être des bonnes intentions derrière certaines de ces approches-là, mais il y en a d'autres aussi, comme je disais, que c'est purement douteux, en tout cas purement, là, je dirais, question monétaire, parce que bon, après ça, on en profite pour mettre tous ces enfants-là et tous ces gens-là sur des médicaments qui sont des fois eux-mêmes aussi très dangereux pour la santé. Non seulement dangereux pour la santé, mais il faut savoir aussi que il y a un grand potentiel d'avoir plusieurs, je dirais, enfants qui sont peut-être moins normaux que les autres. C'est-à-dire que, écoutez, là, il y a des enfants qui sont différents, tout simplement, sans que ça soit une maladie ou un désordre mental. Et puis, ces enfants-là vont être classés, évidemment, dans des catégories qui vont faire en sorte que ces gens-là, plus tard, en vieillissant, vont porter sur leur front une étiquette qui vont, évidemment, porter le reste de leur vie comme étant probablement des psychotiques ou quoi que ce soit d'autre. Très intéressant à voir et puis, je dirais, à considérer. Un autre sujet qui est bien tabou et qui est en train de percer, si vous voulez, je dirais, les médias et puis la conscience publique, c'est ces fameux antidépressants qu'on prescrit à tout le monde et puis ces trucs comme les Ritalin et puis, toutes ces affaires-là qu'on prescrit à gauche et à droite de façon, je dirais, quand même assez grande, là. Je veux dire, on en prescrit à l'ordre de millions, hein. Et puis, ce qui se retrouve, c'est que vous avez plusieurs études. Puis quand je dis plusieurs études, là, vous en avez quasiment une, je dirais, là, aux 2 semaines qui sort de ce temps-là et qui montre que les antidépressants, qui en fait essayent de remplacer la sérotonine, comme le Seroxate et puis d'autres, peuvent doubler le risque de suicide, OK? Et puis causer des dépressions, donc chez des sujets qui n'en avaient pas au départ. Alors, on a plusieurs études qui ont été faites comme ça. On a utilisé des placebos sur différents patients et puis on les a comparés avec ces fameux antidépresseurs-là. Puis on a remarqué très, très peu de changements, sinon même des effets négatifs. Alors, réellement, vous avez même un cas bien connu. En tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez savoir. Aux États-Unis, on entend souvent parler de ces fameuses tueries de masse qui se passent dans les écoles. Et puis, vous savez, la plupart de ces tueries de masse sont faites par des jeunes qui sont sur ces fameux antidépresseurs. Alors, ces antidépresseurs, en réalité, vont jouer avec la chimie du cerveau et puis causer des dommages irréparables au cerveau et réellement peuvent causer des dépressions et puis mener à des chances, je dirais, comme on disait, deux fois plus élevées de suicide. Alors, c'est vraiment à considérer. Et puis, il y a deux autres aspects aussi à considérer. C'est qu'en réalité, pour chaque émotion qu'on déclare comme étant une maladie, il va avoir un profit évidemment qui va être généré par ça et qui est un motif des compagnies des compagnies pharmaceutiques, hein, pour traiter ces émotions comme étant des maladies. On va tout le temps avoir une nouvelle pilule pour chaque maladie qu'on veut traiter, donc pour chaque mauvais mood, chaque mauvaise humeur que chaque humain peut faire l'expérience. Et puis, vous savez, on essaye de faire une certaine répression de ces individus-là en les droguant carrément. Et puis, ça commence à faire penser un peu à ce meilleur monde d'Aldous Huxley. Donc, si vous n'avez pas lu le livre, vous devez lire le livre et voir le soma, ce qu'on appelle le soma dans le livre. Donc, on drogue les gens pour qu'ils soient tout le temps heureux. Alors, ça, c'est un aspect important. Et puis le deuxième, c'est évidemment, vous savez, en déclarant les réponses humaines normales comme la colère. Et la classant comme étant une maladie, vous savez, les personnes qui sont en colère, qui sont en maudit contre, par exemple, leur gouvernement, peuvent être ignorées et puis mises de côté sans considérer ce qui fait en sorte que ces personnes-là sont fâchées. Alors, vous savez, on n'a pas besoin à ce moment-là de comprendre pourquoi ces personnes-là sont fâchées. On fait juste les déclarer comme étant des personnes folles. Et vous savez, on a déjà fait ça dans l'Union soviétique quand on essayait de faire silence sur les dissidents politiques. Alors, on les déclarait comme étant des fous et puis on les mettait dans des hôpitaux pour malades mentales. Alors, ça, c'était de quoi qui était évidemment utilisé de façon assez largement par l'Union soviétique. Et puis, vous savez, la semaine passée, vous avez entendu le cas de Joe Stack, cet Américain qui a crashé son avion dans un bâtiment de l'IRS, l'IRS qui est l'équivalent de Revenu Canada, en tout cas de l'Agence de collection des impôts aux États-Unis. Alors, je vais revenir sur ce sujet-là dans pas très longtemps. À ce moment-là, vous savez, ça permet de faire en sorte que ces gens-là, on les déclare comme étant des malades mentales. Et puis, évidemment, on n'a pas besoin de chercher à ce moment-là la raison pourquoi ces gens-là sont si fâchés. OK? Donc, vous savez, ça, c'est très, très pratique aussi pour un gouvernement et puis pour l'establishment. Un Financial Times, un auteur de ce journal qui a comparé d'ailleurs Alex Jones, des fois j'en parle ici sur le programme, avec Timothy McVeigh, qui est celui qui a fait exploser le bâtiment à Oklahoma City, vous vous rappelez. Et vous savez, c'est un autre type de tactique comme ça pour faire, je dirais, pour rendre silencieux ses critiques, la dissension politique. Alors, vous savez, c'est un autre moyen de faire en sorte que tous ceux qui luttent contre la venue d'un gouvernement global, on peut les classer à ce moment-là comme étant des gens qui sont malades mentales et qui sont probablement des terroristes. Et puis, ça commence déjà à percer la scène médiatique. Alors, vous avez déjà des gens comme au Financial Times, OK, qui déclarent que des dissidents politiques, des gens qui combattent le nouvel ordre mondial et puis cette tendance à vouloir imposer un gouvernement global à toute la planète, de les comparer comme étant des terroristes et puis comme des malades mentales. Alors, ça commence déjà à percer la scène médiatique. Alors, il n'y a vraiment rien de, encore là, d'imaginer dans ce que je dis ici. Et puis, parlant d'affaires complètement malades, vous avez une nouvelle qui a été relâchée par The Stars. Puis, vous avez aux États-Unis, dans une banlieue de Philadelphie, une école qui a espionné sur ses étudiants. Via des webcams, okay, donc les petites caméras dans les ordinateurs, que l'école a donné à ses étudiants. Alors, vous avez des laptops qu'on donne comme ça, qu'on passe en fait aux étudiants pour qu'ils puissent faire leurs travaux d'école. Et puis, l'école a activé ces webcams pour espionner les jeunes chez eux. Alors, vous savez, les étudiants ont trouvé que c'est bon, l'école les espionnait, alors que le principal de l'école a dit à un étudiant qu'ils avaient une photo de lui qui était en train de faire de quoi à la maison qui n'était pas correct. Alors, on ne sait pas si c'était quoi, je ne sais pas si l'étudiant était en train de faire des minouches à sa blonde ou bien en train de se faire de ses minouches à lui-même ou peu importe, mais l'affaire est que, vous savez, c'est bon, déjà en premier de produire une photo comme ça, c'est de la pornographie infantile, donc c'est déjà un crime en soi. Et puis, ça montre aussi que, bon, l'école avait la possibilité, l'habileté d'activer cette webcam qui était intégrée dans l'ordinateur. Alors, l'école était capable d'activer à distance cette caméra et puis de filmer les étudiants qui sont des mineurs, à l'insu des parents de ces gens-là, de ces écoliers, puis des amis qui étaient là. Alors, imaginez un peu la situation délirante qui se passe. Alors, non seulement comme la semaine passée, je disais qu'une école à Détroit, on enseigne comment travailler chez Walmart, mais là, on s'aperçoit qu'il y a d'autres écoles à Philadelphie qui espionnent de façon illégale comme ça sur les jeunes et puis prennent des photos d'eux autres alors qu'ils sont dans des situations embarrassantes, en train de se déshabiller ou même en train de prendre une douche. Alors, c'est assez incroyable. Et puis, parlant de douche, ben voilà une autre nouvelle assez choquante. On apprend une nouvelle ici aux États-Unis qu'une femme de l'Arkansas a appelé la police parce que sa jeune fille ne coopérait pas. Et puis, bon, en fait, la jeune fille devait aller prendre sa douche et puis la mère en avait marre parce que là, la fille est en train de faire un petit cri chez eux. Donc, la mère appelle la police. La police descend chez eux et puis finalement utilise son fusil taser sur la jeune fille de 10 ans dans sa propre maison pour qu'elle aille prendre sa douche. Alors, voilà un peu encore des délires absolument incroyables auxquels on assiste dans un état de surveillance et un état policier total qui est en train de vraiment montrer son hideux visage aux États-Unis. Alors, on va continuer dans cette veine. Vous allez voir, les choses ne vont pas bien. Et puis, une autre personne qui ne va vraiment pas bien, ben, c'est Barack Obama. Vous avez ici un différent rapport et puis des sondages qui ont été faits par Rasmussen, qui est une agence de sondage aux États-Unis. Et puis, on a trouvé que seulement 22% de la nation aux États-Unis, des Américains, approuve de la façon que Barack Obama performe et puis mène son rôle comme président. Alors 22%, c'est une méchante dégringolade par rapport aux 80% que Barack Obama avait au début de sa présidence. Alors vous savez, c'est probablement une des descentes les plus rapides, probablement même plus rapide que ce que Bush a connu. Ça, c'est assez incroyable. Et puis encore là, essayer de trouver les 22% qui approuvent grandement de la façon dont Obama gère le gouvernement. Pas certain que vous allez trouver. Alors, on se demande qui ces gens-là interviewent pour en arriver à des chiffres comme ça, mais en tout cas, quand même bien que ça serait réaliste, ça vous montre un peu à quel point que, évidemment, la popularité de Barack Obama descend de façon très, très, très rapide, de façon exponentielle, parce que tout le monde se rend compte que Barack Obama, c'est une fraude, un menteur total qui a nié toutes ses promesses électorales. D'ailleurs, en parlant de promesses électorales, bien, vous savez, Obama avait promis d'établir le gouvernement le plus ouvert et transparent de l'histoire des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était une de ses promesses, dont parmi plusieurs qu'Obama n'a jamais tenues. Non seulement il n'a pas créé ce gouvernement transparent et ouvert, mais il vient de battre un triste record de Bush, imaginez-vous donc, avec aucune conférence de presse formelle depuis 215 jours. Alors, Bush avait le plus long stretch sans, en fait, de conférence de presse publique télévisée à la télévision nationale, avec des réponses et questions, évidemment, des journalistes. Et puis, Bush avait un record de 214 jours, et puis, M. Obama vient de le battre avec 215 jours. Alors, vous voyez un peu encore là, la fraude totale que M. Obama est. Et puis, une autre preuve que ce gouvernement d'Obama et puis cette personne de Barack Obama est une fraude totale, c'est sa promesse de réduire, de fermer, de terminer les guerres au Moyen-Orient et puis de cesser de produire des armes nucléaires. Et puis, Barack Obama a décidé de plier les genoux devant le puissant lobby nucléaire et puis des laboratoires de production d'armes nucléaires qui sont évidemment gérés par des compagnies privées. Barack Obama a décidé finalement d'augmenter le budget de fabrication d'armes nucléaires aux États-Unis. Alors, un budget incroyable, évidemment, pour l'armée de 2011, un budget qui va totaliser pas loin ou autour de 700 milliards de dollars, imaginez, juste pour l'armée. On avait proposé de réduire l'armement, le stock d'armement nucléaire de 40 %. Et puis, ce qui va se passer en réalité, c'est qu'on ne va pas le faire. On va en fait donner plus de financement à des laboratoires comme celui de Los Alamos, celui qui produit en grande partie les armes nucléaires des États-Unis. Alors, on va augmenter leur budget de 225 millions de dollars. Alors, c'est une augmentation de 132 %, imaginez-vous donc. Vous avez aussi des enquêtes qui ont été faites par le docteur James Manning, qui a engagé un paquet d'enquêteurs pour essayer de vérifier les assertions comme quoi qu'Obama aurait étudié à l'Université de Columbia à New York. Et puis, vous savez, on n'a rien trouvé. Le docteur Manning a fait des enquêtes assez poussées, là. On allait vérifier tous les documents. Obama aurait déclaré avoir étudié à cette école-là entre 1982 et 1983, sauf que les enquêteurs n'ont jamais été capables de trouver aucune sorte de documentation pour les années de 1981, 82, 83 et même 84 qui montrait qu'Obama aurait été enregistré à l'école. Alors, on n'a rien trouvé, ni sous son nom de Barack Hussein Obama, ni sous son nom de Barry Sotero, parce que vous savez que Barry Sotero, c'est Barack Obama, sous son nom qu'il a porté en Indonésie. Alors, on avait même ici parlé de ça à l'autre monde, comme quoi que Barack Obama n'était peut-être même pas légitime d'être président des États-Unis, étant donné qu'il n'est pas un citoyen américain. Alors, ça resoulève encore cette question. Alors, on ne retrouve absolument rien, ni même pas sa photo dans des livres de graduation. Vous savez, on produit tout le temps ses livres à la fin de chaque année scolaire, et puis on ne retrouve pas sa photo dans le livre de graduation de sciences politiques. On n'a aucune mention ni aucune documentation qui documenterait que Obama a participé à l'Université de Columbia durant ces 4 années qui ont été enquêtées. On a aussi interviewé des professeurs, des employés du collège, des étudiants qui étaient au même département que Obama prétend avoir étudié. Puis personne ne se rappelle, pas une seule personne ne se rappelle d'avoir vu Obama. Alors, la question est dans les airs et lancée. Est-ce qu'Obama est réellement un citoyen américain? Est-ce qu'il a réellement étudié à l'Université de Columbia? Alors, ben voilà, la question est lancée. C'est à vous d'aller faire vos enquêtes. C'est ce qui est de plus intéressant. Vous avez un lien là-dessus à les consulter, évidemment, sur les nouvelles internationales. Nouvelles internationales qui, pour les nouveaux auditeurs, et le blog en parallèle avec L'Autre Monde, sur lequel j'ai publié toutes les informations, tous les liens, tous les textes pour que vous puissiez les retrouver puis vérifier par vous-même les informations dont je discute ici. Alors, évidemment, ça commence à barder aux États-Unis. Vous avez maintenant des billboards. Vous savez, des billboards, c'est les gros panneaux publicitaires qu'on trouve le long de l'autoroute. Et on commence à parler d'empêchement aux États-Unis, d'un impeachment. Aux États-Unis, c'est une procédure par laquelle on peut enlever le président de son poste s'il ne correspond pas, s'il ne fait pas l'affaire des Américains. Alors, on commence déjà à parler d'impeachment après 1 an et demi de mandat du gouvernement de Barack Obama. Alors, intéressant, vous avez une photo et puis un article à lire à ce sujet. Ensuite, on a l'armée qui pourrait faire exploser des stocks de réserves qui datent de la guerre froide, OK? Donc, on parle d'armes chimiques qu'on a stockées depuis à peu près 50 ans, des stocks qui sont très vieux, même qui certains fuient. Alors, on a des problèmes avec ça, et puis on avait une certaine entente là avec l'armée américaine pour faire en sorte qu'ils se départissent de ces stocks-là. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup, évidemment, de matériel qui est là. On parle d'environ 125 000 armes qui sont stockées là-bas. Vous en avez à peu près seulement 500 000 qui sont crus comme étant dangereux, c'est-à-dire qui fuient dans l'entrepôt là-bas, donc qui demanderaient une attention immédiate. Sauf que là, on est en retard sur l'agenda, et puis la solution qui est apportée par l'armée, c'est de mettre des explosifs dans cet entrepôt et puis de le faire exploser. Alors, grosse solution, évidemment, qui ne va pas mener à grand-chose, sauf possiblement contaminer toute la région autour. Et puis, c'est la raison pour laquelle cette nouvelle se retrouve dans les médias, parce que, évidemment, que les gens qui habitent autour sont très inquiets de cette solution un peu psychopathe, là, de se débarrasser de ces stocks d'armes chimiques qui datent de l'ère de la guerre froide. Alors, une autre nouvelle à aller consulter. On en vient maintenant au cas assez particulier de cet homme, M. Stack, qui a fait exploser son avion dans le bâtiment de l'IRS aux États-Unis. Okay? Donc ça s'est passé à Austin, au Texas. Alors, un cas assez spécial. Pourquoi? Parce que, bon, vous allez retrouver dans les liens la lettre que le pilote a écrite avant de crasher son avion dans ce bâtiment-là gouvernemental. Les médias aux États-Unis ont essayé si vous voulez, de contenir le débat et puis essayer si vous voulez, de contrôler un peu ce qu'on en pense, dans le sens qu'ils offrent le choix à savoir si cet acte-là, c'est un acte criminel ou un acte terroriste. Et comme je vous disais en début d'émission, on essaie tout le temps de discréditer ces actes de colère on ne va pas cautionner ces actes-là, mais vous savez, on dit que quand une révolution pacifique est impossible, une révolution violente est inévitable. Okay? Alors, évidemment que personne ne veut la violence, et puis personne ne la suggère, et puis personne ne la souhaite, sauf qu'à un moment donné, quand on pousse un peuple à bout, il va arriver des événements comme ça. Et puis, ce qui a motivé M. Stack a lancé son avion dans le bâtiment qui a tué au moins une personne et mis le bâtiment complet en feu. Et le fait que l'IRS, qui en fait est l'agence de collecte des impôts aux États-Unis, qui est une agence privée d'ailleurs, soi-disant en passant, c'est une compagnie privée, OK? Ça n'a rien à voir avec une agence gouvernementale. Déjà, ça risque de vous surprendre, mais allez faire vos recherches. C'est une agence privée. Et la raison pour ça, c'est qu'en réalité, le 16e amendement des États-Unis n'a jamais été réellement ratifié de façon, je dirais, satisfaisante pour légaliser le prélèvement d'impôts sur le labeur des Américains. Okay? Ça a même affaire ici au Canada, c'est illégal de prélever des impôts au niveau fédéral. Au niveau provincial, c'est légal, pas au niveau fédéral. Et puis, on est obligé de créer des subterfuges comme ça pour faire en sorte que vous pensiez que ça soit légal et que ces gens-là soient dans leur plein droit de vous taxer, puis après ça, de vous mettre en prison si vous ne payez pas vos taxes. Et ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec l'IRS qui a des. Même affaire comme ici au Canada, avec Revenu Canada, où on retrouve des livres de taxation qui sont tellement compliqués que même un avocat ne s'y retrouve plus. Okay? Déjà, en partant, c'est de quoi qui est hautement contentieux qu'on pourrait contester en cour. Sauf que là, ce qui arrive, c'est qu'en plus, non seulement ces livres-là de taxation sont complètement compliqués, on les change au fur et à mesure. Et puis, M. Stack est un ingénieur et dans son parcours professionnel, s'est vu taxer avec plein de préjudices, là, OK? Dans le sens que on a changé la forme de taxation sur son salaire en cours de route dans les années 80. Et on n'est pas certain dans quelle catégorie qu'ils tombent. Alors, des fois, ils peuvent être considérés comme un travailleur autonome. Des fois, ils peuvent être considérés comme un travailleur pour rattacher une compagnie. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on vous taxe pendant une dizaine d'années comme étant un certain type de travailleur. Et puis après ça, on arrive après une dizaine d'années, on vous dit, ah ben non, vous n'êtes plus classé comme ça, là, vous êtes classé comme un autre. Et puis après ça, on vient vous chercher, vous imposer des taxes de façon rétroactive sur 10 ans. Et ce qui monte évidemment à des factures de plusieurs milliers de dollars. Ce monsieur Stack s'est retrouvé environ dans la cinquantaine avec tout son fonds de pension qui s'est volatilisé à cause de ces voleurs de l'IRS. Et ce qui est arrivé, c'est que ben, le monsieur, pour faire en sorte que la banque ne puisse pas mettre la main sur sa maison, l'a mis en feu, a pris l'avion et puis a décidé de se suicider en attaquant les bureaux de l'IRS qui étaient localisés dans ce bâtiment gouvernemental dans lequel il est allé crasher son avion. Alors, ça, c'est tout un cas, c'est assez incroyable. Et puis, comme je vous dis, ce n'est pas de quoi ici sur l'autre monde qu'on supporte et puis qu'on approuve, sauf qu'à savoir si c'est un acte criminel ou un acte terroriste, à un moment donné, la question se pose à savoir qui est les vrais terroristes, qui sont les vrais criminels. Ne serait-ce pas l'IRS qui vient taxer ces personnes-là de façon complètement illégale, déjà en partant, et puis de façon vraiment immorale, en venant changer après une dizaine d'années ses lois, puis après ça, venir complètement siphonner l'argent que cette personne-là avait pour son fonds de pension. Alors, à un moment donné, vous allez retrouver de plus en plus de personnes qui vont faire ce type d'action. Et puis, avant de penser que M. Stack est un malade mental, je vous invite à lire son texte, OK, sa lettre qu'il a laissée avant d'aller se tuer. Et moi, je l'ai lu. Et vous allez comprendre que cette personne est une personne bien normale, avec une colère qui était très justifiée. Et puis, son contentieux avec l'IRS était bien réel et très légitime. OK? Donc, vous avez un paquet de liens à aller voir sur ça qui sont très importants, dans le sens qu'on va essayer de peindre cette personne-là, Joe Stack, comme étant un malade mental encore, avec une colère injustifiée, qui est à veille d'être classifiée comme étant une maladie mentale bientôt, comme je disais dans le nouveau livre psychiatrique. Et puis, ben voilà quoi. Donc, vous allez revoir de plus en plus de des affaires comme ça, comme je vous dis. On va essayer de le peindre comme étant un anti-catholique, un anti-Bush, un anti-n'importe quoi, mais la réalité, c'est que cette personne-là avait vraiment un contentieux très légitime. Il y a plusieurs articles qui vont aussi parler de ce fameux 16e amendement. Donc, allez voir ce qui se passe. Et puis, vous allez avoir une autre vidéo qui s'appelle Freedom to Fascism, qui a été produite par Aaron Russo, qui est un documentaire qui a été vu par plusieurs millions d'Américains, qui documente en fait, même dans les bureaux même de l'IRS, l'IRS est absolument incapable, ni le gouvernement américain sont incapables de prouver que le 16e amendement a été réellement ratifié aux États-Unis, ce qui permettrait la collecte d'impôts sur le labeur des Américains. Vous avez même un jugement de Sullivan contre le gouvernement américain, dans lequel le juge James C. Fox a admis que le 16e amendement n'avait jamais été réellement ratifié. Alors, un tas de liens comme ça, très importants, à les consulter. OK? Donc, ça, c'est assez important. Puis, vous allez voir aussi dans cette lignée-là, un autre article d'un homme qui a pris un bulldozer puis qui a détruit sa maison avant que sa maison soit reprise par la banque, alors qu'il y a une reprise de finances. Alors, vous avez cet homme en Ohio qui est aussi très fâché que la banque refuse de travailler avec lui pour qu'il puisse garder sa maison. Alors, vous avez ces gens-là qui ont vu leur maison être dévaluée par le crash du marché hypothécaire aux États-Unis, qui se font saisir leur maison comme ça par la banque. Alors, cette personne avait construit lui-même sa maison sur ce terrain, puis il en a assez marre, et puis tellement écœuré de voir ce système-là fonctionner, où les banquiers reçoivent des plans de sauvetage de l'ordre de centaines de millions de dollars, se font octroyer des bonus absolument honteux, okay, avec l'argent des payeurs de taxes. Alors, vous allez voir de plus en plus comme ça d'Américains qui vont en avoir marre, qui vont prendre les grands moyens. Cette personne-là, au lieu de laisser la banque reprendre la maison, eh bien, décide de prendre son bulldozer et détruire la maison lui-même. Alors, beaucoup de nouvelles qui vont sortir comme ça. Donc, vous avez aussi une banque qui a été l'objet d'une attaque à la bombe à Athènes, en Grèce. Et puis, vous savez, c'est une banque de JP Morgan. Et puis, vous voyez encore un autre état, un autre exemple de ça, de cette guerre qui est en train de prendre forme. La dernière guerre qui reste à mener à l'humanité, celle de l'humanité contre les banquiers privés qui sont en train de nous laver ben raide, qui sont en train de prendre possession de la planète entière et puis de nous rendre esclaves économiques dans un système qui s'appelle le système fractionnaire bancaire. Un système dans lequel, dès qu'il rentre en fonction, il y a plus d'argent qui est dû qu'il en existe, qu'il y en a en circulation, OK? Un système qui est fait volontairement pour ruiner la population, qui est fait pour mettre la main sur toutes les ressources planétaires, pour faire en sorte que les pays soient asservis, puis que ces banquiers-là deviennent en réalité les vrais propriétaires terriens de la planète entière. Alors, c'est peu dire, je pèse bien mes mots, et puis vous allez voir de plus en plus d'attentats comme ça contre les banques, et en espérant qu'il n'y ait pas de victimes, mais que ce soit juste un message qui soit envoyé à ces banquiers privés, qui sont les vrais terroristes, les vrais ennemis dans je dirais, dans cette guerre que l'humanité a amenée. Alors, j'emploie des gros termes ici. Écoutez, à un moment donné, c'est l'époque dans laquelle on est. Okay? Donc, moi, je décris les choses telles qu'elles sont. Si, comme je vous disais, on empêche qu'une révolution pacifique qui se fasse, ben, on va avoir à faire une révolution violente. Et puis ça, c'est les mots même je crois que c'était de Lincoln. En tout cas, un président comme ça américain, là, je suis pas certain de la source exacte là, de mémoire. Donc, la réalité, c'est que ça fait longtemps qu'on est conscient de ça, puis c'est un fait historique. Alors, c'est pas moi ici là, qui est un révolutionnaire malade qui veut virer à feu et à sang la ville, là, OK? Faut comprendre que c'est des choses qui sont historiques et des choses qui sont bien normales. OK, alors on continue. Vous avez l'élite économique qui sont en train de mettre en place un coup extraordinaire, évidemment, contre, comme je vous disais, la masse. Et puis, vous avez la classe moyenne qui est menacée de disparaître. Et puis, c'est un peu encore dans la même lignée des nouvelles dont je parle ici ce matin. Alors, vous avez un article ici à aller voir qui parle de ça. C'est une dure réalité, mais vous allez comprendre que l'élite économique est très bien organisée, a pris possession des partis autant de la gauche et de la droite, autant des républicains que les démocrates, autant des libéraux que les conservateurs. Contrôle toutes les branches du gouvernement, évidemment, parce que pourquoi? Ben parce que ces banquiers-là contrôlent la dette, ils contrôlent l'imprimerie, la création de l'argent. Okay? Donc, quand vous contrôlez l'économie au complet, qu'est-ce que vous pensez vous contrôler? Vous contrôlez absolument tout. C'est la raison pour laquelle ces banquiers-là cherchent à créer des guerres, cherchent à créer des conflits, parce qu'évidemment, on crée des dettes de cette façon-là. Et puis, le but n'est pas de contrôler le gagnant d'une guerre, mais de contrôler la dette. Parce que quand vous contrôlez la dette, ben, vous tenez les gens par la gorge, OK? Vous contrôlez les gens, vous devenez le maître dans la cabane. Tout le monde sait ça, c'est le créancier qui dicte sa loi. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis la classe moyenne est sous danger imminent de disparaître de façon très, 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 je dirais, très évidente, très scientifique. Là, vous pouvez aller voir tous les chiffres du gouvernement américain. Vous allez comprendre que la classe moyenne est en train de fondre, OK? La classe moyenne, autant ici au Canada qu'aux États-Unis que dans le reste des pays occidentaux. Bon, alors, c'est une autre raison aussi pour laquelle vous avez eu des révolutions, autant aux États-Unis, la Révolution française, et ça a été évidemment dirigé et fondée par quoi? Ben, par la classe moyenne, parce que vous savez, c'est la classe moyenne qui font en sorte que la société peuvent s'émanciper. Et puis c'est la classe moyenne qui est un challenge direct au pouvoir de l'establishment, de l'ordre établi. OK? Alors, tous les tyrans ont la même recette, c'est de désarmer le peuple, les garder pauvres. Alright? Donc, désarmer le peuple et puis les garder pauvres, c'est la façon dont on contrôle la population, c'est la façon qu'on préserve l'ordre établi de l'élite. OK, donc on continue. Vous avez ici l'hypocrisie de Bush sur les crimes de guerre. Alors, vous avez Bush qui avait déclaré que si quelqu'un était pour être capturé, ça c'est Bush avait déclaré ça à des reporters en mars 2003. Il disait que si on était pour capturer des prisonniers, ben qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils étaient pour être traités de façon humaine. OK? Et puis, que si ce n'était pas le cas, et eh bien que les gens qui étaient pour maltraiter ces prisonniers étaient pour être traités comme des criminels de guerre. Ça, c'est la citation même de M. Bush. Vous savez, ce qui s'est passé en réalité, c'est que M. Bush et Cheney et Rumsfeld ont autorisé la torture d'une centaine, c'est pas de milliers de prisonniers de guerre. Okay? Donc, si ces gens-là, de leur propre bouche, ont déclaré que les gens qui étaient pour les maltraiter étaient pour être traités comme des criminels de guerre, eh bien, qu'on les traite comme des criminels de guerre. Et je parle de ça parce que Dick Cheney a admis qu'il avait commis des crimes de guerre, okay, dans les médias. Et puis, vous avez même Obama qui a décidé de complètement ignorer ça. Vous avez une entrevue exclusive qui a été accordée à ABC News avec Jonathan Carl. Et puis, M. Cheney a proclamé son amour pour la torture. Alright? Et puis, ce qui est arrivé, c'est que il a même déclaré qu'il était un grand supporter du waterboarding. Et ainsi de suite, quoi. Finalement, M. Bush a carrément challengé l'administration Bush de faire quoi que ce soit. Hein? Donc, il n'y a aucune action qui va être entreprise contre lui, même si l'ancien vice-président a carrément déclaré qu'il a permis et puis qu'il supportait ardemment la torture. Une autre nouvelle absolument incroyable, n'est-ce pas? Bon, on continue avec les nouvelles. Vous avez ici 20%, 21% des Américains qui disent que le gouvernement a leur consentement d'être gouverné. Alors, ça revient un peu à peu près aux chiffres qu'on avait avec les sondages par rapport à Obama. Alors, vous avez 21% seulement des Américains qui disent que le gouvernement a leur consentement pour être gouverné. Vous avez une forme de gouvernement qui est absolument destructive, qui est en train d'abolir tous les droits et libertés du peuple, qui est en train d'instituer un nouveau gouvernement, mais un gouvernement qui est en réalité une tyrannie et qui est en train de détruire la Constitution aux États-Unis et la mettre aux poubelles. Ça fait plusieurs émissions que j'en parle. Vous avez un document ici à aller consulter à ce sujet-là. C'est assez incroyable. Et puis, vous avez la classe politique qui, elle, dit à 63 % penser que le gouvernement a le consentement des gouvernés. N'est-ce pas incroyable? Alors, vous avez un peu le fossé ici qui existe entre justement les gouvernés et les gouvernants. Vous avez un autre ici, un article du Newsweek qui, on dit, défaire une autre théorie de conspiration. On dit que c'est ridicule de penser que l'Union nord-américaine est en train de s'implémenter en Amérique du Nord. Et vous avez un ancien ministre mexicain des Affaires étrangères qui a déclaré dans les médias que l'Union nord-américaine est puis une monnaie commune à la grandeur de l'Amérique du Nord était une chose bien réelle. OK? Alors, il a confirmé qu'on avait en route depuis 2005, comme je parle ici depuis très longtemps, un projet d'intégration à la style Union européenne qui est en train d'être développé au niveau de l'Amérique. Et puis, ceci a été révélé dans le Newsweek. Alors, allez consulter ça. C'est encore une autre nouvelle qui vient documenter le fait que ces unions nord-américaines, ces projets d'intégrer le Canada, le Mexique et les États-Unis ensemble, autant au niveau économique, militaire que frontalier, est bel et bien réel. Okay? Vous avez ici un manifesto du peuple américain qui est mis en ligne, qui devrait se passer, en fait, qui appelle pour une grève générale à la grandeur des États-Unis pour le mois d'avril, donc soit l'avril, le mois c'est-à-dire entre le 15 et le 18 avril. Alors, vous avez le manifesto en ligne aussi sur les nouvelles internationales que je vous invite à aller voir. On parle évidemment de réinstituer la Constitution aux États-Unis. Hein, on ne parle pas de faire des révolutions débiles, comprenez-vous, là, de tout détruire et mettre un feu à sang les États-Unis. On demande des affaires bien, bien simples. On demande de réinstituer, puis de supporter, puis de suivre la Constitution américaine à la lettre, qui est censée être la loi suprême du territoire des États-Unis. Évidemment, on veut réinstituer les droits civils, la liberté. Okay? On dit qu'il est temps de se tenir encore collectivement debout pour protéger les droits individuels de liberté. Hein? Et on dit dans ce manifesto qu'on doit abolir la Federal Reserve System, donc la Fed aux États-Unis, la Banque centrale, qui est une entité privée, elle aussi. Donc, vous avez carrément les États-Unis qui sont menés par une banque centrale qui est censée être gouvernementale, mais qui est une entité privée, une banque privée, contrôlée par des banquiers privés. Et vous avez un autre, comme l'IRS, qui est une autre compagnie privée, qui vient sucer l'argent des Américains de façon complètement illégale, qui donne ça à des banquiers privés et qui finalement, eux, s'enrichissent avec une population esclave qui travaille pour eux, qui sont là finalement pour servir de garantie à la dette. Okay? Donc, quand les États-Unis empruntent de l'argent à l'étranger, comme en Chine et au Japon, la garantie de cet argent-là, c'est le peuple américain. Okay? C'est le peuple américain qui travaille. On garantit le labeur des Américains pour les années, les décennies à venir. Donc, vous avez un système privé aux États-Unis qui contrôle le pays au complet. Ça, c'est très intéressant. On demande dans ce manifesto-là des tribunaux criminels pour ceux qui sont réellement derrière les attaques du 9-1. Alors, très intéressant aussi. On demande l'arrêt immédiat des guerres en Irak et en Afghanistan, et puis des enquêtes publiques pour savoir qui ont profité de ces guerres-là. On demande aussi aucune autre déclaration de guerre formelle avant que le Congrès les déclare, parce que seul le Congrès a le pouvoir de déclarer des guerres aux États-Unis, alors qu'on le fait de façon illégale avec l'Iran, avec l'Afghanistan et puis l'Irak. On a demandé dans un manifesto-là d'arrêter tout le lobbying professionnel et payé des congrès et puis de la branche exécutive du gouvernement. Et ainsi de suite, OK? Donc, vous avez un paquet comme ça de demandes qui sont évidemment des plus légitimes, OK? Allez découvrir dans ce document-là. Vous avez une série de 6 vidéos d'Alex Jones qui documente et qui explique comment que Obama est le prochain attaque terroriste aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est le prochain false flag terrorist attack, c'est-à-dire une attaque sous faux pavillon. Alors, Obama est lui-même la prochaine fausse attaque terroriste, et puis explique comment que on nous prépare tranquillement depuis quelques mois dans les médias à nous montrer que la sécurité autour de Barack Obama n'est pas bonne. Vous avez sûrement entendu parler du couple qui s'était introduit dans ce dîner à la Maison-Blanche sans y être invité, avoir passé les réseaux de sécurité. Vous avez sûrement entendu parler du fait Obama qui était au Texas où on avait donné un ordre de stand-down à la sécurité. Donc Obama était laissé sans protection. Alors, on y envoie certains messages à M. Obama et puis ce qu'on risque d'assister, ce qui est très intéressant, que je laisse découvrir les vidéos, mais je dis que tous les signes concordent dans ce sens-là. C'est qu'on pourrait attenter à la vie de M. Obama ou, ben non, même faker une fausse attaque sur lui, le blesser d'une façon ou d'une autre, ou peut-être même carrément le tuer, une chose qui est évidemment pas souhaitable du tout. De grâce, essayons d'éviter ce type de situation-là. Mais écoutez, j'en parle parce que si ça arrive, vous l'aurez entendu, puis vous serez déjà préparé mentalement, vous aurez un firewall mental. Si ça arrivait que Barack Obama était attaqué, était blessé d'une certaine façon, même assassiné, ça risque d'être une attaque qui va être complètement préfabriquée, un peu comme le 9-1, sur laquelle on va blâmer qui? On va blâmer la gauche. Oui, on est en train de préparer dans les médias, même à Fox News où M. Glenn Beck, on est en train d'accuser la gauche et d'affilier le mouvement pour la vérité sur le 9-1 à des terroristes qui seraient à la gauche. Et puis, on a clairement dit dans les médias, OK, j'ai des vidéos qui existent de ça dans les médias, OK, donc de Glenn Beck, Fox News et puis sur d'autres médias, où on est en train de dire que le mouvement pour la vérité sur le 9-1 pourrait être ces terroristes qui essaieraient d'assassiner Barack Obama ou d'intenter une attaque sur sa personne. OK? Donc, c'est très, très grave. On est en train d'assimiler le mouvement pour la vérité sur le 9-1 à des terroristes. On est en train de préparer la psyché publique, la psyché du monde, de la masse, à un tel attentat pour que s'il se produit, que les gens soient déjà prêts mentalement à accepter que le mouvement bleu 911 ou la gauche soit blâmée. Okay? C'est un peu le même type d'opération psychologique qui avait été préparée juste avant les attentats du 911, où on parlait depuis quelques mois avant que ça se produise de M. Osama Bin Laden. Bin Laden qui n'était pas dans les médias du tout, mais qui peu à peu, on en parlait dans les médias, on préparait la masse, et puis bam, quand c'est arrivé, on a pu attaquer directement M. Osama Bin Laden. Lui mettant sur les épaules la responsabilité des attaques du 911. Donc, vous avez des trucs qui se reproduisent, des signes qui sont assez évidents et qui laissent présager qu'une telle affaire pourrait être intentée. Alors, allez voir ça. C'est très intéressant. Et puis, ça risque de vous informer grandement si de quoi qui se passe de ce type d'événement. Okay? Vous avez aussi Bob Chapman et Mike Rivero qui sont sur le show d'Alex Jones et puis qui parlent d'une attaque domestique, une attaque d'intérieur, une attaque terroriste qui pourrait se produire. Alors, vous avez énormément de signes qui parlent d'attaques, de fausses attaques terroristes. Je crois qu'on va avoir évité celle à Vancouver. Vous avez l'Australie qui a déclaré, je crois, hier, et pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, qu'une attaque terroriste sur l'Australie était imminente et très sérieuse. Alors, on n'arrête pas de parler de ça, de préparer la psyché de la masse à une fausse attaque terroriste comme ça qui risque de débouler, évidemment, d'être blâmée sur en parenthèse, extrémistes de la gauche, le mouvement du 9-1-1, ou sur des Iraniens pour partir cette fameuse guerre en Iran.
Nothing is
Sur un côté un peu plus historique, on a un article de 1972 qui a été déterré. On parle d'une bombe de la population, c'est-à-dire un auteur de Paul Ehrlich qui a suggéré qu'on devrait ajouter des agents stérilisateurs dans la chaîne alimentaire et puis dans l'eau potable. Okay? Donc, vous avez ce biologiste Paul Ehrlich qui avait écrit ce document-là en 1972 qui révélait un mouvement environnemental naissant qui commençait déjà à jongler avec des idées eugéniques de stérilisation de masse aux États-Unis, OK? Un document qui existe, qui révèle en réalité ce parallèle avec ce mouvement environnemental moderne aujourd'hui qui semble dire que pour sauver la planète, il va falloir réduire la population mondiale, OK? On dit qu'on a besoin d'une réduction de la population mondiale et qu'on va avoir besoin de peut-être de nouveaux systèmes si les méthodes de réduction volontaire des naissances ne fonctionnaient pas, alors qu'on était pour rajouter des stérilisants dans la chaîne alimentaire et puis dans l'eau potable. Alors, vous voyez que c'est des plans qui existent, OK? Des plans existent, et puis vous devez savoir que Ehrlich a aussi participé à la rédaction d'un livre en 1977 avec un autre gars qui s'appelle John Holdren, qui s'appelle « Eco-Science », Population, Resources, Environment, un livre qui appelait pour un régime planétaire pour contrôler le développement et la distribution des ressources naturelles. Ce monsieur-là, John Holdren, est, si vous voulez, le tsar de la science du président Obama, OK, qui a fait des suggestions de dédéveloppement des États-Unis, dédéveloppement, c'est-à-dire finalement de détruire la base industrielle des États-Unis. Donc, ça commence à être assez intéressant. Et puis, vous avez aussi différents liens à les consulter où on parle évidemment de gouvernance globale qu'on pensait déjà à développer en 1972, qui a été aussi présente dans ce fameux sommet de la Terre en 1972, qui est à la base de systèmes eugéniques qui a pris la forme d'un mouvement environnemental pour apparemment sauver la planète et qui a pris forme actuellement de ce mouvement environnemental qui se cache sous les draps du réchauffement climatique, qui sert de justification à cette gouvernance globale qui va être amenée et réduction de la population mondiale. Alors c'est assez intéressant. Puis là, vous allez voir, écoutez, là, un paquet d'articles là, qui sont en lien où on parle de gens comme le columniste Friedman, où on parle de trop de monde dans le monde. Popular Science, ici, on dit qu'on devrait enlever le droit d'avoir des enfants, que ça devrait être régulé par le gouvernement. On parle de l'activiste climatique Michael Tobis, qui dit qu'il est temps qu'on prenne des étapes pour faire en sorte que les femmes ne puissent plus avoir autant d'enfants qu'il y en a. On devrait limiter à 2 enfants par famille. Adopter des contraceptifs dans les populations des pays en développement pour aider à combattre le réchauffement climatique. Alors, il faut réduire la croissance de la population mondiale. Alors, vous avez un paquet d'articles comme ça, absolument débiles, là, je veux dire, qui évidemment vient documenter de façon indéniable ce mouvement eugénique qui se cache derrière cette élite mondiale qui veut instaurer cette gouvernance globale. Alors, c'est assez troublant. Vous allez en voir un paquet là, de trucs, là, OK, là, du gouvernement des Verts en Angleterre, de Greenpeace. Vous allez voir des documents d'Al Gore, des anciens ministres de l'Environnement Vous avez le département de la justice, le premier ministre Stephen Harper. Vous avez un paquet de sources comme ça, Warren Buffett, le Washington Post, un paquet d'articles comme ça qui viennent documenter ces tendances eugéniques et de gouvernement mondial. Okay? Donc, ce n'est pas des affaires de théoriciens de la conspiration, c'est des affaires qui existent. Et puis, ces documents-là, de haut niveau, des documents formels, existent. Et puis, vous pouvez même aller les consulter maintenant sur les nouvelles internationales. Je sais que c'est beaucoup. Je vous invite à réécouter l'émission à votre propre rythme. Moi, je vous garoche réellement les nouvelles ici par la tête. Désolé de le faire. S'il y en a tellement, je veux dire, c'est absolument. C'est absolument renversant. Je veux dire, ça arrive par shot de dizaines et dizaines à tous les jours. Et puis, j'ai pas le choix de tout couvrir ces affaires-là. Donc, allez-y à votre propre rythme, réécoutez l'émission tranquillement. Vous avez sur YouTube, évidemment, tous ces trucs-là découpés en morceaux, en sections. Donc, ça va aller mieux aussi, peut-être, pour ingérer toute cette masse d'informations. Mais allez vérifier de grâce tout ce que vous entendez ici sur l'émission parce que c'est documenté, OK? Et à un moment donné, il faut en parler. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on continue. Vous avez le gouvernement américain qui voudrait que les fermiers étendent des produits toxiques qui proviennent des stations de production d'électricité à base de charbon. Alors, on veut récupérer ces déchets toxiques. Alors, on vient gratter tout l'intérieur de ces plants-là de production d'électricité au charbon. Et on se retrouve avec un produit toxique qui sort de là, puis on veut que ça soit utilisé comme fertilisant sur les sols dans lesquels on fait grandir écoutez, le maïs et toutes ces plantations d'agriculture. Alors, on dit que c'est déjà un truc qui a commencé. Ça fait déjà quelques années que ça se passe aux États-Unis, puis là, on veut augmenter ces trucs-là. Alors, imaginez, donc, on est en train d'intoxiquer la chaîne alimentaire au grand complet. En Australie, on a en place un genre de mur, on l'appelle le mur de silicone. OK, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est en train d'installer un appareil à la Big Brother de surveillance où on interdit des sites Internet. OK, donc vous avez même un site Internet où je vais prendre beaucoup de mes nouvelles qui s'appelle What Really Happened, qui est banni en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Alors, vous avez plusieurs sites comme ça qui sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils transportent des nouvelles qu'on a peine à trouver dans les médias de masse. Et puis, au nom de la pédophilie et puis de toutes sortes de raisons comme ça, on va interdire des sites. Et puis, c'est déjà en train de se passer en Australie. Alors, il faut faire attention. C'est des plans qui s'en viennent ici aussi au Canada, qui s'en viennent aux États-Unis. Et puis, comme j'en parlais depuis quelques émissions, c'est des attaques qui vont aller en crescendo contre l'Internet, contre la neutralité du Web. On va vous demander d'avoir des permis pour aller surfer sur Internet. On va vous demander, si vous êtes un blogueur, d'avoir des permis pour mettre en ligne des informations. Et puis, si vous ne faites pas l'affaire, on va complètement vous bannir. Right? Donc, ça, c'est une autre nouvelle. Allez voir. Vous avez le Pentagone qui est en train de se préparer pour une offensive militaire contre le Venezuela. Alors, on est en train de déplacer un paquet d'équipements militaires autour du Venezuela. Autant en Colombie, où on a installé de nouvelles bases militaires, qu'en Haïti, où on a déplacé. Quoi, 10 000-15 000 hommes là-bas avec des bateaux de guerre. On a des bateaux aussi qui font une surveillance électronique de toute la côte vénézuélienne. Alors, un autre article incroyable qui risque de réveiller certaines consciences. On est en train de préparer une guerre, un nouveau front contre le Venezuela. Vous avez l'Argentine aussi qui est en train de tomber dans un autre combat contre la Grande-Bretagne sur le fait que les îles Falkland appartiennent à la Grande-Bretagne. Et vous savez, il y a des réserves de pétrole importantes qui sont autour des îles Falkland. Et puis là, vous avez l'Argentine qui veulent réclamer ces îles-là comme étant partie de leur territoire, évidemment. Écoutez, les îles Falkland, ils sont dans les eaux territoriales de l'Argentine. Et puis le fait qu'elles sont détenues par la Grande-Bretagne, ça remonte au temps de la Deuxième Guerre mondiale où les Anglais se sont amenés dans le coin et puis occupent tout le temps ces îles. Alors, vous avez des tensions qui sont centrés autour des réserves de pétrole qui sont autour de ces îles-là. Alors, on risque d'assister à un autre conflit militaire dans cette région. Alors, quand on parle de savoir, ça prend combien de pays pour qu'on appelle une troisième guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, mais voilà d'autres exemples. Vous avez les bateaux militaires américains qui ont bloqué l'aide humanitaire d'atteindre la Somalie. Alors, bravo les États-Unis. Un autre exemple de la moralité incroyable de ce pays, de cette élite américaine. Donc, on se fout carrément des Somaliens qui sont complètement sans conséquence pour cette élite américaine, pour le gouvernement américain. On fait juste évidemment penser à contrôler le pétrole qui s'y trouve et puis les ressources minérales. Et un autre front qui risque d'exploser assez rapidement, ben, c'est vers la Russie, où on a appris que les Américains étaient pour déployer des missiles Patriot à seulement 50 km de Kaliningrad, OK? Kaliningrad, qui est une ville russe, OK? Tout proche de la frontière avec la Pologne et puis la Roumanie, qui est pas très loin, où on planifie de déployer de ces missiles-là. Alors, une agression totale. Vous vous rappelez le cas des missiles à Cuba, quand la Russie avait déployé des missiles à Cuba, donc à quelques centaines de kilomètres de la côte floridienne. Alors, les États-Unis qui avaient complètement freaké. Et puis là, on se permet de faire la même affaire dans le cours des Russes. Et puis, on hausse les épaules en se demandant pourquoi les Russes, évidemment, paniquent. C'est une menace directe à la souveraineté et puis la sécurité nationale de la Russie. On va déployer des missiles américains directement dans leur cours, dans un projet de bouclier antimissile. Hein? Donc, à seulement 56 km, pour être exact, de la frontière et de la ville de Kaliningrad russe. Alors, assez incroyable de voir la provocation directe que les États-Unis font à l'envers, à l'encontre de la Russie. Alors, ces missiles devraient être déployés en avril, selon les rapports qu'on a. Évidemment que le Kremlin a répondu face à cette menace de l'OTAN et puis des États-Unis en déployant ses propres missiles sur sa frontière ouest avec l'Union européenne. Alors, bon, ben, c'est beau. Alors, une nouvelle guerre froide et puis potentiellement une troisième guerre mondiale qui se met en place. C'est absolument fantastique. On est en train de finir le dossier, et puis une qui est très importante encore, c'est le Dalai Lama qui est en visite aux États-Unis avec Barack Obama, un moine de la CIA. Eh oui, chers amis. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter cet article important que j'ai mis en ligne cette semaine sur les sites du Québec. Ça s'appelle Dalai Lama, un moine de la CIA et relations américaines-Chine, évidemment, qui dégénère énormément de ce temps-ci. On provoque la Chine de toutes sortes de manières avec les cartes de la vente d'armes pour 6 millions de dollars à Taïwan. On joue avec la déstabilisation au Xinjiang ou avec les gens du Ouïghour qui sont financés en partie par la CIA et puis les États-Unis pour semer la déstabilisation aux frontières de la Chine et aussi avec ce Dalai Lama. Dalai Lama qui a été peinturé, qui a été montré par Hollywood comme étant un saint, comme étant une personne d'une spiritualité incroyable. Et il y a un gros mythe autour de ça que j'ai tenté de démolir avec des évidences et des documents qui sont à vérifier, qui sont vérifiables et donc un truc qui est vraiment documenté. Le Dalai Lama, qui est loin d'être un saint, chers auditeurs, qui a même participé à un régime féodal répressif contre le peuple tibétain dans les années 50, alors qu'il organisait une insurrection contre la Chine avec le soutien de la CIA. Le Dalai Lama a avoué lui-même avoir reçu et continuer de recevoir annuellement des millions de dollars de la CIA pour entraîner des troupes de guérilla pour se séparer de la Chine. Et vous avez un paquet d'informations à aller consulter dans cet article-là. Vous allez comprendre que la Chine est sous provocation directe des États-Unis parce que la Chine est en train de devenir le premier empire, la première puissance industrielle et économique du monde. Et vous avez l'élite anglo-saxonne, WASP, qui est très contre ce fait-là et qui est absolument incapable d'arrêter cette lourde tendance de la Chine de devenir le prochain empire sur la Terre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couper toutes les sources d'approvisionnement, autant de pétrole que de ressources naturelles de la Chine, en rouvrant un paquet de fronts et puis en bâtissant un paquet de bases militaires tout le tour de la Chine. Et puis ce qui est la raison d'ailleurs de vouloir attaquer le Pakistan et puis de déstabiliser le Pakistan qui va être le lieu de transit des pipelines de pétrole qui vient de l'Iran vers la Chine, OK? Parce que l'Iran est le premier approvisionneur de pétrole de la Chine. Alors, vous commencez un peu après ça à mettre les pièces du casse-tête en place quand vous allez comprendre toutes ces stratégies-là et vous allez comprendre tous les enjeux géostratégiques de la région. C'est d'ailleurs la raison aussi d'avoir créé cette pseudo-attaque terroriste sur le vol 253 de Northwest avec ce fameux pseudo-terroriste du Yémen qui a permis aux États-Unis de déployer des troupes et puis un autre front militaire au Yémen. Et on essaye, avec vous savez, l'occupation de la Somalie, de contrôler le détroit de Hormuz. Le détroit de Hormuz où transite 20% du pétrole mondial et 40% du pétrole maritime. Donc, évidemment, un point de transit très, très important. Et c'est ce que les États-Unis essaient de faire, évidemment, c'est de couper les lignes d'approvisionnement de pétrole, comme je vous disais, et de ressources naturelles vers la Chine. Alors, un article très, très important à aller consulter pour comprendre les enjeux de la région et puis de savoir comment on contrôle et on essaie de provoquer la Chine de cette façon. C'est très important à comprendre. Vous allez voir de plus en plus d'attaques et puis ça va mettre en lumière aussi ce qu'on essaie de faire, donc de partir une guerre contre l'Iran et de provoquer la Russie, de provoquer la Chine, ce qui risque de dégénérer dans un scénario d'une conflagration qui pourrait mettre en feu tout le Moyen-Orient, qui pourrait se changer en une troisième guerre mondiale si elle n'est pas carrément déjà déclarée. Okay? Avec des fronts militaires contre l'Irak, l'Afghanistan, le Yémen, la Somalie, le Pakistan, la Palestine, l'occupation militaire d'Haïti, il est certain que la question se pose de soi. Considérant le fait que les provocations et des plans d'attaque contre l'Iran, le Liban, la Syrie sont en place, que le Venezuela soit dans la mire du Pentagone, que la Chine soit visée, que la Russie soit l'objet d'une menace directe par le déploiement de missiles Patriot américains en Pologne, à moins de 56 km de la frontière russe, la question est hautement légitime et d'une importance particulière à considérer, chers auditeurs. Donc, c'est beaucoup d'informations, comme je vous disais, mais c'est des informations qui sont cruciales pour comprendre ce qui se passe en ce moment, et puis ça chauffe énormément. Si vous pensez que les choses vont bien, eh bien, réveillez-vous. Il est temps qu'on se mette à comprendre là, ce qui se passe en ce moment pour qu'on évite, évidemment, des guerres possibles qui pourraient dégénérer en des scénarios absolument catastrophiques. On parlait de ces clowns-là, de Bill Clinton et puis les autres qui s'en vont parader en Haïti pour avoir l'air de des sauveurs humanitaires. Et on apprend dans une autre nouvelle ici, même sur Fox News, que USAID, qui est la grande agence internationale de développement des États-Unis, qui est un front, la CIA est un front des services secrets, des services d'intelligence, du renseignement, pour mettre les pieds sur des territoires, pour infiltrer ces places-là. Alors, on apprend que la USAID envoie de l'argent sans appel d'offres à des contracteurs qui sont politiquement connectés avec des firmes de Bill Clinton et de ses amis. Alors, grosse surprise, elle a un article à aller consulter. Une autre série de vidéos ici sur les lignes de guerre d'Obama. Alors, Obama, qui est un autre président guerrier aux États-Unis. Vous avez Google qui a banni des DVD qui sont critiques de l'administration Obama. Hein, oui, la censure qui continue de monter. Vous avez le gouvernement qui est désespéré puis qui essaye de cacher le rôle du FBI dans un show de radio d'un gars qui s'appelait Al Turner aux États-Unis. Alors, Al Turner, qui était un suprémaciste blanc, qui appelait à la violence contre le gouvernement, qui appelait à la radicalisation des Américains, se retrouvait finalement être un informateur du FBI qui était payé 100 000 $ par cette agence. Okay? Alors, ça vous montre un peu comment que le gouvernement est prêt à court-circuiter les mouvements pour la vérité, les patriotes, les vrais patriotes, les gens qui sont là pour lutter, qui critiquent le gouvernement. Il y a aussi Netanyahou, un autre scandale incroyable. Vous avez entendu parler du Mossad qui s'était déguisé et qui ont utilisé des faux passeports et puis probablement même des faux passeports diplomatiques pour aller tuer un commandant, le haut commandant du Hamas à Dubaï. Alors, ces agents du Mossad se sont infiltrés à Dubaï, dans un autre pays, pour aller assassiner le commandant du Hamas dans les semaines qui ont passé. Et puis, évidemment qu'Israël nie toute l'affaire, le Mossad nie toute l'affaire, sauf que toutes les pistes, toutes les évidences sont sur le terrain. Vous avez plusieurs dizaines d'articles que j'ai mis en lien aussi sur les nouvelles internationales pour vous aller voir ça. Alors, un meurtre incroyable d'un chef du Hamas. Évidemment, ça révèle les politiques d'assassinat du Mossad dans un paquet de pays étrangers. C'est une gaffe incroyable du Mossad qui plonge Israël dans l'embarras. Le Mossad a été piégé par son propre meurtre, qui a été mis à découvert, mais qui lance aussi un signal, malgré tout, que le Mossad a les mains partout et peut vous assassiner partout où ils veulent. Okay? Donc, un paquet d'articles à aller voir là-dessus. Très, très, très troublant de voir ça. Et puis, ça n'a pas fini de faire les manchettes. Le Hamas qui a été ciblé par le Mossad. Le Mossad qui se permet de mener des exécutions à l'étranger. Nouvelle ici qui parle de la stratégie d'Israël de saboter et attaquer le mouvement pour une justice globale. Alors, saboter et attaquer, ça, c'est des citations directes de leurs documents qu'ils ont émis. Vous savez, l'Institut Root qui a demandé au gouvernement israélien de consacrer des ressources substantielles pour attaquer, voire saboter ce mouvement de manière criminelle. Dans ce que Root appelle les pôles internationaux de Londres, Madrid, Toronto, la baie de San Francisco et au-delà. Alors, d'après les analyses de l'Institut Root, la doctrine stratégique israélienne traditionnelle, c'est-à-dire qui considère que les menaces pour l'existence de l'État doivent être traitées par des moyens principalement militaires et combattus, de cette façon, est terriblement dépassée. Israël est plutôt confronté aujourd'hui à la double menace d'un réseau de résistance et d'un réseau de délégitimisation. Alors, ça, c'est un document qui existe, qui a été produit directement par cette agence-là, qui a été présenté au gouvernement israélien et où on appelle à l'utilisation du sabotage, okay, au sabotage qui est considéré aux États-Unis comme étant un acte de trahison très important. Alors, on dit qu'on va utiliser ces armes-là pour venir contrer ces mouvements-là qui prétendument vont provoquer l'implosion politique d'Israël à la façon de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne de l'Est ou de l'Union soviétique. Au niveau de base, l'analyse de Root représente un progrès par rapport aux couches plus primitives et jusqu'ici dominantes de la pensée stratégique israélienne. Elle montre que l'on comprend, comme que je l'ai dit, comme qui est décrit dans ce document-là, que le sionisme ne peut pas simplement bombarder, enlever, assassiner, expulser, démolir, coloniser, mentir, arriver à se faire légitimiser et accepter. Mais ce qui sous-tend l'analyse de l'Institut Root et son incapacité totale à démêler les causes et les effets, c'est qu'elle semble supposer que l'érosion spectaculaire de la réputation internationale d'Israël, depuis ses guerres contre le Liban en 2006 et contre la bande de Gaza en 2009, est le résultat des prouesses de réseaux de délégitimisation auxquels il impute les objectifs totalement infâmes, sournois et malsains, à savoir la destruction d'Israël. Elle blâme les délégitimateurs et les résistants de l'échec de la solution à deux États, sans tenir compte de l'impitoyable et inexorable colonisation israélienne, appuyée par pratiquement tous les organes de l'État, délibérée et destinée à rendre impossible le retrait israélien de Cisjordanie. L'analyse n'a jamais considéré un seul instant que l'escalade des critiques visant les actions israéliennes pourrait être justifiée ou que ceux qui viennent gonfler les rangs des gens qui sont prêts à consacrer leur temps et leur effort pour s'opposer aux actions d'Israël puissent être motivés par une indignation sincère et le désir de voir se concrétiser la justice, l'égalité et la fin des effusions de sang. En d'autres mots, Israël est en train de se délégitimer lui-même. Alors, un autre article très important à les voir. On parle du sabotage de ces réseaux de mouvements pour la justice internationale. Et vous avez ici une lettre envoyée au Parlement contre l'adoption d'une nouvelle loi qui ferait de nous tous des criminels. Alors, on parle ici au Canada. On parle d'un projet assez extrême, OK? Vous avez le CPCCA qui veut dire « The Canadian Parliamentary Coalition to Combat Antisemitism ». OK, donc c'est un projet de loi qui est en étude au gouvernement américain, au gouvernement canadien, qui, si adopté, fera de nous des criminels potentiels. Il serait alors interdit de critiquer la politique et les actions d'un gouvernement étranger particulier sous peine d'être accusé d'incitation à la haine. Alors, ce que je viens de faire ici, exactement ce que je viens de faire, pourrait être considéré comme étant criminel. Bref, on pourra critiquer la politique de tous les pays sauf de un, celui d'Israël. OK? C'est Irvin Cutler, ancien ministre de la Justice, reconnu pour défendre inconditionnellement la violation des droits humains des Palestiniens par l'armée israélienne et opposant farouche au rapport Goldstone, qui décrit dans les détails les crimes de guerre de l'armée israélienne dans son offensive illégale contre Gaza. Bref, c'est notre ancien ministre de la Justice qui pilote le projet de la loi. Pas mal pour un expert en droit international et en droits humains. Cherchez l'erreur, chers auditeurs. À la solde du maître Cotler, sur ce comité, on retrouve le ministre de l'Immigration, Jason Kenney, un catholique sioniste intégriste dont les discours et les gestes sont des plus alarmants. Okay? Donc, la logique de ces défenseurs du droit international est simple. Critique de la politique israélienne égale antisémitisme. Alors, on ne peut plus critiquer quoi que ce soit, même si c'est absolument légitime. On dit que c'est une incitation à la haine raciale. Alors, ce que je viens de faire, critiquer Israël, c'est, selon eux, une incitation à la haine raciale. Les effets de cette loi, Selon Joanne Nayman, auteur du document, tous les organismes militants pour la paix et la justice au Proche-Orient seront muselés par crainte d'ennuis judiciaires. Et le projet de loi, selon elle, créera de l'antisémitisme en amalgamant judaïsme et sionisme. Alors, c'est tout le temps en rendant plus floue la frontière entre le judaïsme et le sionisme qu'on arrive à faire ça, parce que c'est deux affaires complètement différentes. All right? Donc, vous avez une pétition à aller signer, à aller lire cet article. Dans le dossier historique, on a des troupes françaises qui ont été utilisées comme cobayes dans les années 1960. Ça, c'était révélé par le Daily Mail en Angleterre. Alors, on a exposé délibérément des soldats français à des explosions nucléaires en Algérie dans les années 60 pour étudier les effets de la radiation sur les humains. Alors, ça vous donne une idée encore là de comment les gouvernements traitent sa population et ses soldats. Alors, ben oui. Les gouvernements qui réellement, hein, sont responsables de la cause non naturelle de mort numéro un du siècle dernier, avec un bilan à son actif de 200 millions de morts au siècle dernier qui ont été causées par les politiques des gouvernements. Ces gouvernements qui disent tout le temps avoir à cœur votre bien, qui disent mieux savoir que vous ce qui est bon pour vous. Bien sûr, bien sûr. Et un autre exemple de ça, on appelle ça la guerre des chimistes. On a appris dans un livre qui est utilisé, qui s'appelle The Poisoner's Handbook, une histoire absolument incroyable du gouvernement américain qui avait décidé d'empoisonner l'alcool durant la Grande Prohibition. Alors, vous savez, cette grande saga qui avait commencé avec la ratification du 18e amendement, qui avait banni la vente et la consommation de breuvages alcooliques aux États-Unis. Ça avait commencé en 1919, et puis on avait banni toute la consommation d'alcool là-bas, même la production. Et puis ce qui est arrivé, c'est que les gens, évidemment, n'écoutaient pas ça, et puis ils continuaient à consommer de façon illégale l'alcool. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avant que cette prohibition se termine en 1933, le gouvernement américain était responsable de la mort de 10 000 personnes aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on avait décidé d'ajouter du méthyle à l'alcool et puis différents autres comme le chloroforme, la formaldéhyde, de l'éther, de la nicotine, des sels de mercure, du zinc, de l'iodine, du cadmium, du benzène, de la gazoline. Vous avez de l'acide carbolique, de la quinine et puis de l'acétone. OK? Le gouvernement américain avait demandé d'ajouter ces trucs-là à l'alcool pour faire en sorte que les gens la trouvent si mauvaise qu'ils n'en consomment pas. Imaginez. Sauf que le problème, c'est qu'on en avait tellement ajouté. À un moment donné, ça faisait plus de 10% total, du produit que les gens en mouraient. Alright? Donc, un autre exemple de comment le gouvernement a à cœur votre bien. N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas absolument merveilleux de voir le gouvernement qui s'occupe de nous de cette façon? Wow! Bon, vous avez le Canada qui a décidé d'approuver la production de cochons, de porcs modifiés génétiquement et clonés. Alors, attendez-vous à commencer à avoir des cochons modifiés génétiquement, des OGM de cochons et clonés dans votre chaîne alimentaire au Canada. Waouh, c'est fantastique. On applaudit. C'est vraiment de toute beauté. On a découvert, d'un autre côté, peut-être une nouvelle fantastique ici pour essayer de vous clairer un peu les mauvaises nouvelles, là. On a découvert en Turquie des vestiges d'un temple qui est 6 000 ans plus vieux que Stonehenge, imaginez, et 5 000 ans avant même la construction des grandes pyramides en Égypte. Un truc absolument fantastique qui date de 11 500 ans. Là, qui serait la première construction humaine qu'on a trouvée jusqu'à date, et puis qui remettent en question tous les livres d'histoire, en fait, qu'on a à ce sujet. Alors, ce type de découverte vient de faire non seulement une révolution dans l'origine humaine, mais qui vient de redéfinir aussi ce qui est vieux, carrément, OK? Donc, un site absolument incroyable, et puis une information à aller voir. Alors, on va y aller maintenant avec les nouvelles de Big Pharma, qui vient, c'est un chercheur qui vient d'admettre qu'il a faussé des douzaines de recherches pour Pfizer et puis Merck. Alors, probablement une des plus grosses fraudes de l'histoire médicale qui vient d'être mise à jour et qui vient de montrer encore comment que les grosses compagnies pharmaceutiques n'ont absolument pas à cœur votre bien puis votre santé, encore une fois. Mais qu'on fausse tous ces journaux-là, ces études, ces documents médicaux pour faire en sorte que des produits qui seraient normalement classés toxiques et jamais admis sur le marché le soient. OK? Et puis là, vous avez ce fameux docteur Reuben qui a accepté de révéler la vérité à propos de ça, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars de Pfizer, OK, même dans des études comme Celebrex en 2005, pour mentir et puis faire en sorte que ces trucs-là soient rendus, ben, approuvés carrément pour consommation des consommateurs. Alors, ben oui, Big Pharma qui a à cœur votre santé, bien sûr, bien sûr. Une nouvelle étude qui a été publiée par The Local qui montre qu'il n'y a aucune évidence qui vient supporter la contention comme quoi que les vaccins administrés pour l'influenza, donc la grippe saisonnière, pour les gens de 65 ans et plus, n'ont aucun effet. Okay? Aucune évidence qui vient supporter que ces vaccins-là auraient un effet et viendraient aider. Alors, ces vaccins-là sont complètement inutiles. Et puis, n'ont aucun effet plus que d'ouvrir la fenêtre et puis de se laver les mains. Okay? Donc, c'est une nouvelle étude qui a été faite par Cochrane Collaboration. Alors, c'est une autre claire évidence qui montre que ces vaccins-là sont complètement inutiles pour vous protéger. Okay? Et puis, que seulement qu'une méthode d'hygiène de base, comme vous laver les mains, est probablement plus efficace que ça. Alors, une analyse qui a compilé des millions de données. À travers 40 saisons à grandeur de la planète. Alors imaginez, c'est absolument incroyable. Donc on termine avec une nouvelle de l'actualité, avec la station spatiale ici dans un certain vidéo qui vous montre comment elle a été mise ensemble, vidéo très intéressante. Et une autre nouvelle de l'espace, vous avez la NASA qui vient de montrer, qui vient de révéler. Son nouveau rover qui va être lancé vers Mars. Alors, un rover qui est assez gros cette fois, qui va avoir la taille d'une Mini Cooper. Alors, vous savez, ces petites voitures. Alors, les derniers robots qu'on a envoyés étaient plutôt petits, mais le prochain va être assez gros, quoi. Et puis, devrait être lancé vers Mars en 2013. Alors, on arrive à la fin de l'émission assez rapidement. On va y aller avec des nouvelles de l'Iran. Vous avez les États-Unis qui se disent bientôt à bout de temps et de patience. Alors, vous avez un peu les mêmes arguments qui avaient été utilisés avant l'invasion de l'Irak qui reviennent. On est en train de préparer cette invasion et une invasion complètement inutile. Évidemment, vous avez aucune preuve absolue que l'Iran essaye de se procurer et fabriquer des bombes nucléaires. On en parle assez souvent ici sur l'autre monde. Alors, si les États-Unis se préparent à envahir cette nation, ça va en faire une sixième. Alors, comme je vous dis, on se demande à combien de pays, à un moment donné, on doit commencer à déclarer tous ces fronts militaires étant une troisième guerre mondiale. Vous avez un tas de nouvelles ici sur là, l'Agence internationale nucléaire qui déclare que l'Iran ne produit aucune arme nucléaire. On n'a aucune preuve de ça. Il y a une autre ici, nouvelle qui a été publiée par BBC News. On parle d'officiels militaires américains qui ont déclaré qu'il n'y avait aucune raison de croire que l'Iran avait des armes nucléaires. Okay? Vous avez le vice-président Joe Biden qui a déclaré qu'il ne se mettrait pas dans le chemin d'Israël si Israël voulait déclarer une guerre contre l'Iran. Là encore, on vient de bafouer le droit international parce qu'il n'y a aucune nation souveraine qui peut attaquer une autre nation souveraine sans provocation. Alors, on est en train d'envelopper de beaux petits mots, en réalité, ce qui est un meurtre de masse. Okay? Donc, ça, c'est encore contre la loi internationale. Il y a l'OTAN qui est en train d'encercler militairement non seulement la Chine, mais l'Iran aussi. Vous avez un article de Global Research, allez voir, qui détaille ça. Vous avez environ 150 000 troupes qui sont réparties sur. Selon différentes études, de 400 à 700 bases militaires en Afghanistan. Alors imaginez ça, vous avez 400 à 700 bases militaires qui sont déjà déployées en Afghanistan. On est en train d'encercler la Chine et puis l'Iran. Vous avez les Américains sont en train d'accélérer les défenses de missiles dans le golfe Persique. Alors réellement, toutes les préparations militaires sont en route. Il n'y a aucune erreur là-dessus. Vous avez le Sénat qui a passé des nouvelles sanctions contre l'Iran aux États-Unis, qui évidemment est un prélude pour une guerre, évidemment, une préparation qui se prépare, une confrontation militaire contre l'Iran. Le Sénat qui a donné son OK pour des sanctions contre l'acheminement de pétrole vers l'Iran et puis hors de l'Iran. Barack Obama qui a accusé l'Iran d'être en train de se développer des bombes nucléaires. Alors, Barack Obama, complètement sans dessein, qui comprend pas absolument rien, que sous le traité de non-prolifération que l'Iran a signé, l'Iran a le droit de développer la technologie nucléaire pour des buts pacifiques, OK? Alors, même l'enrichissement de l'uranium à 20% pour les usages médicaux est permis. Et puis, sous ces accords de non-prolifération nucléaire, les États-Unis doivent même aider l'Iran, OK? C'est une obligation. Et puis, M. Obama est un vrai idiot hypocrite parce qu'en plus, non seulement il est censé être obligé de supporter puis d'aider l'Iran à développer son programme pacifique nucléaire, mais il a ignoré une question très importante, une des premières question qui lui a été posée par Ellen Thomas, une des plus anciennes journalistes dépêchées à la Maison-Blanche, qui lui a posé la question de savoir qui était le seul État au Moyen-Orient qui possédait des bombes nucléaires. Et puis, M. Obama a complètement ignoré la question. Pourquoi? Parce que selon The Foreign Assistance Act de 1961, qui a été amendé par le Symington Amendment, la section 669 de la FAA en 1976, bannit toute aide économique et assistance militaire des États-Unis vers un pays qui n'a pas signé les accords de non-prolifération nucléaire. Et cet État qui possède des bombes nucléaires dont Obama a ignoré la question, et évidemment Israël. Alors, ça veut dire que les États-Unis est en contravention avec ses propres lois et est en pleine illégalité de financer puis d'assister Israël militairement avec de l'argent et puis évidemment, comme je disais, de l'assistance militaire. Alors, ça, c'est des détails très importants qui ne sont jamais rapportés dans les médias de masse, qui pourtant sont très, très cruciaux à comprendre. Beaucoup de propagande, de diabolisation de l'Iran pour essayer de vous faire croire qu'il faut absolument attaquer l'Iran. Vous avez un paquet de trucs ici à aller voir. Et vous avez l'Iran d'ailleurs qui a accusé les États-Unis d'Israël d'avoir assassiné certains de ses scientifiques nucléaires. Alors, vous voyez un peu ces programmes d'assassinat politique et même de scientifiques qui sont en place par les États-Unis puis par Israël, au Moyen-Orient, même aussi en Irak. Et une dernière nouvelle par rapport à l'Iran, où on a fait des simulations de guerre. Ça, c'était publié par The Times Online en Angleterre. On a fait des exercices qui incluaient bon, une attaque avec Tel Aviv sur l'Iran et puis une réplique de l'Iran. Et puis, vous savez quoi? S'il était pour avoir un conflit militaire entre ces deux pays, on a trouvé que l'Iran s'en sortirait vainqueur. Alors, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour ceux qui aimeraient bien que l'Iran soit anéanti. Pour aucune raison encore. Donc, c'est assez pour nous ici à l'autre monde. On va se retrouver la semaine prochaine avec des nouvelles de l'économie du Pakistan, Irak et Israël. OK? Donc, je vous salue bien bas. C'était François Marginat pour l'autre monde. Portez-vous bien. Bye!
Dust off your thinking caps, solar powered plastic plants, pretty pictures of things we ate. We're only what we hate. But in the long run, we have found silent films are full of sound, inaudibly free. Chopping like an axe. So maybe Eisenstein should just relax. Slow down, everyone, you're moving too fast. Frames can't catch you when you're moving like that. Well, Plato's cave is full of freaks, demanding refunds for the things they've seen. I wish they could believe in all the things and never made the screen. And just slow down, everyone, you're moving too fast. Frames can't catch you when you're moving like that. Slow down, everyone, you're moving too fast.